Mais moi, si je suis coach de Lyon là aujourd'hui, je me bouffe les couilles.
Et tu te bouffes quoi?
Ouais, mais alors, sauf que ce
c'était à quel moment que tu ouais, m'étais bouffé?
On le ressort, mais c'est plus valable aujourd'hui, attention. Hein, c'était il y a 6 mois. Ou...
Bah, non, de toute façon, il les a bouffés. Hein.
Il peut pas les bouffer.
Il y en a plus.
Alors, Pierre, tu voulais nous parler de cette équipe de France. Quel est ton angle très précis?
Alors, l'angle très précis, en fait, c'est hier soir quand je suis devant le match et que je le regarde, et j'espère que je vais pas vous bassiner trop avec le côté tactique, mais ça m'a... Je l'ai pris en pleine gueule, pardonnez-moi l'expression. Déjà avant ce match-là, j'étais pas tellement fan de ce entre guillemets numéro 10 et ses deux attaquants devant lui. Voilà. Déjà ce système pour moi.
Quel qu'il soit, ou parce que Griezmann est deux attaquants.
Parce que Griezmann, Giroud et Mbappé. Déjà.
Ah, mais même. C'est pas le système en tant que tel qui
t'emmerde.
Mais
si quand même, parce que le système, je trouve qu'on a des joueurs pour jouer différemment et être beaucoup plus efficace. Et hier, même contre une équipe des États-Unis faiblarde, voilà, pour les respecter un petit peu.
Tu veux dire l'équipe universitaire des USA.
Voilà, ça a été assez criant pour moi. On a vu trois. Vous les appelez comme vous voulez, deux attaquants et un milieu ou un soutien ou trois attaquants comme vous voulez, c'est pas un problème. Qu'on jouait sur en gros une bande de 15 mètres de large dans l'axe. Qui n'ont que très très rarement été sur les côtés, et à force de vouloir créer un système pour des profils, et encore que pour moi ça correspond même pas au profil, on en oublie juste les bases, quoi. Les bases qu'on m'a répété moi depuis que j'ai 5 ans, d'occuper les espaces contre une équipe comme ça très regroupée et très compacte, bah d'utiliser très souvent, c'est ce qui marche encore le mieux, les côtés et les espaces pour étirer ce bloc, enfin juste des trucs de très basiques que moi j'ai pas vu tout le match hier. J'ai jamais vu en plus Didier Deschamps sur le côté s'énerver un petit peu ou essayer de replacer un petit peu ou je sais pas essayer d'étirer un peu cette attaque en disant à Mbappé à un moment donné de coller un petit peu plus à droite, même si naturellement il revient un peu dans l'axe, mais au moins au départ de pas être à 3 dans 20 mètres carrés comme ça devant la surface de réparation où Giroud sait plus quoi faire parce que c'est pas du tout son jeu, il a plus son jeu de déviation d'appui quand il y a l'espace autour de lui, donc il sert plus à rien, il a très peu de ballons qui sont venus des côtés, voire pas du tout. Mbappé, qui pour moi, mais ça j'en ai déjà parlé, oublie qu'il a que sa principale qualité est de bouffer les espaces, ne l'a jamais fait contre les États-Unis, il n'a jamais pu le faire, puisqu'ils étaient dans un tout petit espace et dans une concentration de joueurs assez importante. Griezmann qui était très souvent à 10 mètres d'Mbappé, à 10 mètres de Giroud, n'a jamais été efficace dans ce qu'il sait faire d'habitude. Et en plus, et c'est pour ça qu'on, tu as sans doute le mot défensivement dans ton
sommaire,
merci. C'est parce qu'en plus, il y a une conséquence pour moi qui contre les États-Unis ne s'est pas vue parce qu'en face c'était effectivement très faiblard. Mais c'est-à-dire qu'à la récupération du ballon, la transition offensive des Américains en deux passes à chaque fois. Vous pouvez revoir le match. Allez, neuf fois sur dix. Ouais, vous êtes pas obligé. 9 fois sur 10 en une passe, deux passes, on trouvait un mec sur le côté qui avait à peu près 30 ou 40 mètres devant lui pour avancer. Contre les États-Unis, ça s'est pas trop vu parce que derrière, il y avait pas beaucoup il y avait pas grand-chose pour faire. Vous faites ça contre d'autres équipes, vous allez vous les prendre les contres et en tout cas, vous allez être en grande difficulté. Et ce qui m'a chagriné hier, c'est que c'est le dernier match de préparation. On nous offre ça. Alors c'est pas grave parce que peut-être qu'on jouera pas comme ça. Voilà le premier match de la compétition et toute la compétition derrière peut-être. Mais j'ai pas compris pourquoi à ce dernier match de préparation on essayait à nouveau ce genre de système et on partait pas sur quelque chose de plus basique. Et les choses ont changé hier quand on a fait des changements et qu'on a remis un Dembélé qui a commencé à percuter un peu plus, un Fekir qui était un peu plus dans son rôle au milieu de terrain, etc., etc. Et moi ça me une fois de plus. Plutôt que de répondre à des certaines questions que j'avais, il y a un peu plus d'incertitude après ce match-là finalement. Comment va jouer l'équipe de France?
Tu n'as pas compris hier la bouillie des Bleus, mais est-ce que tu es inquiet?
Et dans un secteur où tu dois pourtant être un peu rassuré normalement quoi. Donc non voilà, moi réellement je me pose des questions, comment va jouer l'équipe de France en
on va entendre l'équipe des joueurs de l'équipe de France, le sélectionneur aussi dans quelques instants, mais toi est-ce que tu es inquiet parce que c'est vrai qu'après le match et vous allez les entendre, on n'a pas senti une petite sonnette d'alarme quoi.
Non, mais c'est pas leur rôle ni celui du sélectionneur ni celui des joueurs de tirer des sonnettes d'alarme maintenant avant de partir là-bas, ils vont pas le faire. Moi honnêtement, j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a des individualités qui cache, voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, qui sauve un peu la chose, mais que collectivement, effectivement, moi, je ne sais pas où vont les Bleus. Honnêtement, aujourd'hui, je suis incapable de dire où vont les Bleus.
Tu ne sais pas où vont les Bleus avant de vous entendre, Daniel et Bruno. Je vous propose d'écouter Kylian Mbappé. Après la rencontre, lui ne parle pas de changement profond. Juste quelques détails. On écoute.
Il y a encore des détails à régler, ça, vous et nous, on l'a vu, mais après, on a vu d'autres choses. Bien sûr qu'il faudra faire plus à la Coupe du Monde, mais comme on l'a dit, c'est des matchs de préparation, le but c'est de se préparer. Donc, c'était un match un peu particulier, voilà. On a eu une grosse domination, on s'est fait piéger, et on a su réagir, et voilà, là, on clôture la préparation.
On est sur du détail ou pas?
Si je peux juste réagir à un truc, oui, on a une grosse domination. Si on essaye de se remémorer les occasions franches avec des décalages vraiment où tu dépasses une défense où tu peux centrer en retrait comme le but d'ailleurs vraiment quelque chose où tu domines et où tu bouges ton adversaire par la passe par un mouvement etc. Essayez de vous rappeler des occasions, il y en a pas beaucoup.
Bah c'est seulement des frappes un peu aux 18 mètres. Bon ouais, la frappe de Pogba, deux trois frappes qui ont pas été cadrées.
Sans bouger le bloc
donc,
finalement.
Bon voilà et là, le coup franc de Fekir à la fin. Enfin il y avait pas de quoi se.
Donc c'est une domination mais. Assez stérile dans les 30 derniers mètres, encore une fois.
Très stérile.
Ok, mais pour revenir à la question, est-ce qu'on est dans le détail, Daniel? Ou c'est plus...
Je sais pas ce que ça veut dire, détail. Ce que j'essaye de comprendre, c'est comment ça va fonctionner. Et je disais hier soir, on a une certitude, c'est que de toute façon, Deschamps, il jouera avec trois mecs au milieu. On est d'accord? Donc,
en tout cas, Kanté, au début.
Pogba, Matuidi, Tolisso. Dans ces quatre-là, il y en a trois qui jouent. On est d'accord? Et devant, on est sûr qu'il y en a deux qui jouent. Griezmann et Mbappé. Après, il en manque un, qui, à mon avis, sera choisi en fonction de l'adversaire. Un coup Giroud, Dembélé, enfin... Mais ces deux-là, on est d'accord qu'ils sont partants certains, plus entraînés. Et moi, je disais également hier que je crois que Deschamps est dans un revival total de 98. Je pense qu'il est... toute sa vie, en fait, a été construite autour de ce succès-là, auquel il a grandement participé, puisque les discussions avec Aimé Jacquet, tactiques étaient importantes, que c'était le relais principal. Et que, donc, il l'a vu, lui, ce milieu avec trois mecs, qui étaient à l'époque Deschamps, Petit, Carambeu, et trois mecs devant, qui finalement, si on se remémore l'époque, vous savez me dire comment ça jouait ?
Deux créateurs avec Jorka
Zidane.
Zidane
qui a fait une pointe.
Et ouais, avec Guivarch souvent. Il y avait...
Qui a été Guivarch, après Guivarch blessé, un peu Dugas.
Dugas, ouais, mais dedans,
Je parle du 4-3-3 dans cette formule, à partir des quarts, hein, parce que avant c'était pas exactement ça. À partir des gros matchs, le premier France-Italie en quart. Avant, non, le huitième, Diomède joue contre le Paraguay, par exemple, Pires, Rand, enfin, il y a des choses comme ça. Mais, l'équipe de Deschamps, c'est ça. Et finalement, comment ils jouaient, Djorkaeff, Zidane et
comme ils avaient envie. Hein.
Voilà.
C'est pour et ça que ces schémas, c'est purement théorique.
Voilà. Et c'est pour ça que je pense
que ces joueurs-là.
Mais c'est pour ça que je pense que Deschamps vit dans ce souvenir et que.
Ah mais sauf que t'as pas Djorkaeff et Zidane qui étaient deux.
Je le sais, Pierre. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je le sais.
Intelligent, quoi.
Mais il a la vitesse de Mbappé. En fait, exactement comme. Ne les comparons même pas. Ils n'ont pas du tout les mêmes qualités. C'est pas le même genre de joueur. Mais ce qu'il va leur demander, c'est joue à fond avec tes qualités. Donc il va dire à Griezmann, joue comme avec ce que tu sais faire. Et Griezmann fait quand même partie des meilleurs joueurs du monde. Mbappé, un des plus grands espoirs. Et le troisième qui sera choisi, si c'est Giroud, ça emmerde pas Deschamps, parce que dans son souvenir, bon bah t'as été champion du monde avec Guivarch, avec Dugas, c'était pas parmi les meilleurs attaquants du monde à l'époque. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y a une, il veut totalement dupliquer. Ce truc-là.
Si je suis d'accord avec
donc,
toi, mais si tu veux dupliquer, tu es obligé de comparer.
Comment les trois de devant vont jouer? Moi, je crois qu'on verra bien. Quoi. Il faut être très pragmatique. On va voir comment ça va se passer sur les premiers matchs.
Non, par contre, ce qui est pas un détail, c'est j'entends à la fin Umtiti qui dit ouais, ces matchs, ça se joue sur des détails. Le mauvais contrôle de Djibril Sibé, c'est pas un détail. Le haut niveau, c'est pas celui qui fait le plus d'exploits, c'est celui qui fait le moins d'erreurs. Donc il faut méditer ça. Je veux dire les exploits par définition, on n'en fait pas non plus, enfin pas énormément. Donc il faut essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et là, on attend de ces joueurs qui jouent quand même la Ligue des Champions chaque année, qui jouent le haut niveau et qui ont déjà quand même quelques sélections, justement, qu'ils fassent pas ce genre d'erreurs.
Appelez-nous au 32-16 pour réagir notamment à l'avis tranché.
La dernière finale de la Ligue des Champions se joue sur des erreurs.
Ouais. De Pierre Ducrot. Frédéric nous appelle au 32-16. Salut Frédéric.
De garde. Oui, bonsoir. Bonsoir, Lester.
Bonsoir. Tu voulais nous parler de l'attaque. J'imagine que tu as suivi attentivement l'avis de Pierre, mais également la relance de Daniel qui a comparé l'équipe à celle de 98. Et l'attaque.
Alors moi j'ai un avis assez tranché. J'ai surtout l'impression que notre sélectionneur Didier Deschamps, qui est un très grand entraîneur, là-dessus il n'y a rien à remettre en cause, mais j'ai l'impression qu'il tourne vraiment en rond. Ça veut dire qu'on sait que c'est quelqu'un qui est très conservateur, donc il a 11 joueurs en tête, et en fait j'ai vraiment cette impression qu'il essaye tout le système de jeu pour mettre absolument les 11 joueurs qu'il a en tête. Et en fait, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, on essaie le 4-2-3-1, le 4-3-3, le 4-4-2 à nos anges, tout ça parce qu'il faut que Pogba soit sur le terrain, tout ça parce que Griezmann un coup se retrouve sur un côté, un coup dans l'axe, tout ça parce qu'Mbappé doit être sur le terrain, mais c'est normal. Mais j'ai vraiment l'impression que du coup il se trompe, parce que pour un ou deux joueurs, à mon sens, qui ne rentrent pas dans un système de jeu qui pour nous serait plus adapté, pour moi c'est le 4-2-3-1, du coup il tourne en rond et on n'avance pas, quoi.
Est-ce qu'il tourne en rond? Est-ce qu'il est un petit peu perdu, Didier Deschamps? Reste avec nous, Frédéric, on en parle dans quelques instants. Dans l'after, nous avons laissé le champ libre à Pierre Ducrot pour son avis tranché sur l'équipe de France. On en parle d'ailleurs dans quelques instants. Frédéric, et appelez-nous aussi au 32-16 pour débattre de cet avis. Frédéric nous disait juste avant la pause, Didier Deschamps est paumé. On en parle aussi dans quelques instants, mais tout de suite, vous le savez, l'équipe de France est arrivée en Russie.
Moi, je suis pas d'accord avec l'idée qu'il est paumé, hein. Juste une phrase de conclusion.
Non.
Moi, je pense qu'il sait exactement où il va et comment il veut y aller.
Non, en fait, mais c'est pas une phrase de conclusion. On en parle dans quelques instants. C'était du teasing, là. Okay. Je vais pas vous apprendre.
Non, parce que Frédéric a deux idées, en fait. Il a la première idée, c'est que Didier Deschamps a un 11 type et qu'il veut faire que avec ça. Et là, moi, je suis d'accord avec lui. Et après, la deuxième idée de Frédéric, c'était du coup, il se perdait un petit peu dans les choix de ses systèmes.
C'est notre auditeur.
Je crois que ça peut Pierre, en fait.
Non, alors Pierre, c'était l'avis de Pierre, c'est moi, Pierre.
Ouais. Ah oui.
Voilà. ça fait un an qu'on est ensemble depuis dimanche soir et tous les lundis soir.
C'est rien, Daniel, c'est rien. Non,
mais le mec s'en fout avec qui il veut.
Mais il
connaît même pas mon prénom depuis un an, quoi.
Alors, ouais. Moi, je veux bien qu'on bouffe mes lancements, mais si c'est pour sortir ça, Daniel, tu pourrais t'abstenir. Voilà, de toute façon, tu es.
Le pire, c'est que j'ai voulu faire le malin, tu veux un bout de ta gueule. Genre, il a même pas entendu que l'auditeur. Simple Pierre, comme
t'es sûr de toi.
Ah, mais oui.
Tu vois, t'es un peu comme Deschamps, là. T'es sûr de toi avec ton.
Et t'es complètement
paumé. T'es paumé.
On retrouve à Istra, dans la banlieue de Moscou, Maureen Lehoux en direct du camp de base des Bleus. Salut Maureen.
Salut à tous, salut.
Bon, pardonne-nous, on est un petit peu dissipés. Les Bleus qui ont donc découvert leur maison ce soir pour très très longtemps, on l'espère.
Eh oui, on l'espère effectivement, aux alentours de 20h30, le bus de l'équipe de France avec ce fameux slogan qui était déjà là à l'Euro 2016, votre force, notre passion, allez les Bleus, est arrivé à l'hôtel, et les Bleus ont effectivement pris leur quartier dans cette enceinte, puisque c'est un hôtel qui est installé dans un parc de 4 hectares avec un lac également. Ils ont pu manger tous ensemble et ils sont en train de vivre leur première nuit sur le sol russe.
Quelle était l'ambiance? On sait qu'à Istra, juste avant l'arrivée des Bleus, c'était pas forcément incroyable. D'ailleurs, certains, on en a entendu sur RMC, sur BFM TV, on a entendu que certains habitants n'avaient pas forcément entendu de l'arrivée des Bleus. Est-ce que ça s'est un petit peu excité ou pas du tout?
Non, effectivement, il y avait beaucoup plus de caméras et de journalistes que de supporters, une poignée de supporters, peut-être une dizaine, notamment des moscovites qui sont en villégiature dans la région d'Istra, ou encore des habitants de la ville qui étaient par curiosité venus voir ce bus passer. Mais franchement, aucun engouement à l'image de ce qu'on a vécu cette semaine ici. C'est vraiment pas, pour l'instant en tout cas, l'équipe de France n'attire pas la curiosité.
Oui, exactement.
Complètement, effectivement.
Comme Rocky dans Rocky 4, il arrive là-bas.
Et il a gagné à la fin.
Et voilà, c'est ça.
Quand il arrive, personne pour l'accueillir.
D'ailleurs, j'ai un contre-exemple, parce que j'écoutais François Malardeau, l'ancien chef de presse des Bleus en 2010. Il était aujourd'hui sur BFM TV. Il est évidemment dans l'after très régulièrement. Et il disait que quand ils sont arrivés, les Bleus, en 2010, en Afrique du Sud, c'était une ambiance et un délire incroyable dès l'aéroport. Bon, ça nous avait pas forcément porté chance. Tant mieux donc pour cette équipe de France. C'est quoi le programme, la Maureen, pour les Bleus et pour ces prochains jours?
Déjà demain.
Dîners, là. Dodo. Non, ils ont déjà
Le programme
ils devraient avoir terminé. Ils sont au lit, là. Ils sont venus, ils se remettent de leur long périple. Et ben, les choses sérieuses commencent dès demain, effectivement, pour Deschamps et ses hommes. D'abord, le sélectionneur va donner une conférence de presse vers 14h45. Et puis ensuite, ce sera le premier entraînement de l'équipe de France sur le sol russe aux alentours de 16h, heure française. Mais le grand moment de la semaine, ce sera mardi avec l'entraînement ouvert au public. On le sait que c'est toujours important. Et là, on attend plusieurs centaines de supporters français. Et notamment ces supporters qu'on a suivis, vous vous en rappelez, qui sont partis de Lyon en bus pour arriver à Istra demain soir
en
et
bus,
être là pour
Lyon
le premier. Ouais. Exactement.
Ah, combien de kilomètres ça fait ça?
40 heures de bus, c'est ça.
Plus de 2000 kilomètres, si je me trompe pas. On est vraiment dans un sacré périple pour ces supporters. Ils seront donc là mardi à Istra. C'est pour ça qu'on attend pas mal de supporters en espérant que ce soit une belle ambiance qui règne dans ce camp d'entraînement des Bleus. Et puis ensuite, vous le savez, il y aura le départ pour Kazan, puisque samedi, eh bien oui, déjà, l'équipe de France jouera face à l'Australie. Son premier match de ce mondial, ce sera à la mi-journée.
Et merci beaucoup, Maureen Lehou, pour toutes ces informations.
Pour dormir et
belle soirée à toi, très vite soir.
Maintenant, 40 heures de bus, t'as le temps de dormir.
Vous avez des petites couchettes, Daniel.
Dans le car?
Ouais, c'est
alors en fait, ils avaient fait une moitié. Ils avaient conduit GRB
parce qu'ils étaient malades.
Une avec
Oh, le voyage de ma... Oh. Rien que d'y penser, j'ai la
nausée.
Mais tu vas avoir les bleus, Daniel.
Pardon.
Il n'y a pas de train.
Non, je disais que le bus avait été aménagé justement avec une moitié de siège et une moitié de couchette.
Ah,
et il se relayait, il jouait.
Il y a des toilettes.
Voilà, il jouait au tarot.
C'est moderne.
Ouais. Ah, c'est
un car aussi. Tu peux faire des.
Ah, c'est pas les cars qu'on prenait quand on était môme pour faire les déplacements de foot là dans la région. Là, on était, il y avait tout le temps des malades dedans.
Ah, moi, j'étais malade dans le car.
Tout le temps.
En fait, c'est l'odeur du tissu. J'ai réussi à trouver l'odeur du tissu me rendait malade. Et si j'avais le bonheur, voire le malheur de me retrouver à l'arrière,
c'était malade. T'avais le chauffeur qui était en train de clopper. Des trucs qui puaient et tout.
Tu pourrais voyager maintenant.
Ouais, mais à l'époque, c'était pas ça, mon vieux.
Oui, oui.
Puis quand t'étais malade, on te donnait une espèce de sucre avec un alcool de mangue dessus, ça te faisait encore plus gerber.
Ouais,
voilà. Ça me faisait gerber encore plus.
Ouais, mais t'avais un sachet plastique dans le truc, dans la pochette.
Lyon-Moscou en car, moi, jamais.
Jamais.
Et pourtant, j'adore la voiture, mais en car.
Maintenant, c'est vrai qu'il y a des cars beaucoup plus modernes. C'est plus, à l'époque, c'était les autocars Suzanne.
Ça aurait pu être pire. Le dernier match amical était à Lyon. Ça aurait été à Rennes, imagine. Tu te rajoutes 10 heures de car.
J'ai l'impression qu'on a dévié sur un truc, là. Qu'on a pris l'itinéraire
bis,
d'ailleurs.
C'est vrai. J'ai un scoop pour vous, les gars, je peux vous le dire. Il n'y a pas besoin d'attendre la première conférence de presse. Le groupe vit bien ensemble. Ça, je vous le dis déjà, c'est sûr. Okay.
C'est une vraie info ou alors c'est...
C'est la saucisse habituelle.
Moi, c'était une vraie info.
Merci beaucoup, Bruno Sapin, pour cette information. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Je vous propose d'écouter Didier Deschamps, justement. C'était pas demain, forcément, parce que c'est pas passé. Mais c'était hier, après la rencontre face aux États-Unis. Pourquoi les Bleus ont mis du temps à rentrer véritablement dans cette rencontre? Pourquoi ils nous ont proposé cette copie? Écoutez le sélectionneur.
J'aurais préféré gagner 5-0, mais dans l'euphorie, on va là-bas, bon, c'est que l'Australie, au moins, on va y aller avec les voyants un peu qui clignotent, parce qu'on va aller dans la difficulté, et c'est normal, comme dans toutes les Coupes du Monde. Je suis satisfait du travail qu'on a effectué. Le match, c'est pas celui-là qui a été le meilleur de nos trois matchs, mais voilà, je me plains pas qu'on ait eu des difficultés ce soir, même si c'est lié. C'est pas une excuse, hein. Je cherche jamais des excuses, mais par rapport à la charge de travail qu'on a fait, on devait passer par là.
Ils ont fait exprès, en fait.
Je veux bien croire que effectivement les jambes étaient un peu lourdes et que t'as pas le jus nécessaire parfois pour faire des différences, mais c'est justement là où quand t'es en place collectivement et tactiquement, tu peux t'en sortir. Quand individuellement, ceux qui font d'habitude la différence ont les jambes un peu plus lourdes et y arrivent moins.
Et c'est
tout le problème.
Et c'est véritablement la question que l'on se pose. Est-ce que c'est juste un problème de charge de travail? Enfin, un problème. Tant mieux, le travail, c'est la préparation. Mais est-ce que c'est juste ça? Et ça rejoint aussi ton avis tranché et aussi la réflexion de Frédéric qui est toujours là, qui nous a appelé au 32-16. Mais qu'est-ce qu'il y a?
Ah, mais il est toujours là, vraiment?
Ah, bah oui, ça va lui coûter cher, hein. C'est payant, Frédéric.
Il n'y a pas de problème.
Bravo pour la ténacité.
Non, mais c'est vrai, Bruno, on se pose cette question. Est-ce que c'est un peu plus inquiétant que ça ou on doit se satisfaire des propos de Didier Deschamps? C'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé.
Bah, sans doute, ils ont beaucoup travaillé. Après, c'est vrai qu'il y a sans doute, à une semaine du début de la Coupe du Monde, il y a ceux qui ne voudraient pas prendre un mauvais coup. Donc, dans les duels, dans les contacts, on y va sans doute un petit peu moins que ça le nécessiterait. Bon, contre l'Australie, il va y avoir des duels. C'est pas des champions, c'est pas des très grands joueurs, les Australiens, mais dans l'engagement, ils vont être là. Ah, et oui. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait choisi les États-Unis, une équipe entre guillemets anglo-saxonne, où c'est basé sur beaucoup d'engagement physique, à défaut d'avoir une grande technique. Donc je pense que le programme, en tout cas, il avait été relativement bien pensé sur les différents matchs amicaux, à la maison, des stades pleins, une bonne ambiance pour mettre tout le monde un peu en confiance. Peut-être que c'était un peu trop tranquille, quoi. Mais en même temps, ce qui est important, c'est d'être prêt samedi prochain.
Exactement. Et justement, tu voulais réagir, Daniel, au propos de Frédéric, qui est toujours là d'ailleurs, me dit-on, et qui nous a dit que Didier Deschamps, il le sentait un petit peu perdu. Et toi, c'est pas du tout ton avis?
Ah oui, non, parce que je répète ce que j'ai dit il y a deux minutes. Non, moi je sens qu'il est absolument pas perdu, qu'il sait exactement quelle équipe il veut mettre dès le premier match, comment il évoluera face à tel type d'adversaire. Non, je le sens absolument pas perdu. Deschamps, c'est pas le genre.
Et ça n'a pas changé.
On peut ne pas être d'accord avec ses idées, avec ce qu'il l'a fait et fera. Mais c'est pas un mec qui est perdu.
En fait, Frédéric, je pense, et comme Frédéric est toujours avec nous, il va pouvoir nous répondre. Mais je pense qu'il voulait pas forcément dire paumé ou perdu. Il voulait dire qu'il était têtu. Et donc il s'obstinait avec ces 11 joueurs qu'il veut faire jouer à essayer de trouver la bonne formule plutôt que d'en essayer d'autres. Je me trompe, Frédéric, ou
Non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre, pardon. C'était pas dans le sens où Deschamps est perdu. Deschamps, on sait très bien la valeur de Deschamps, on sait très bien que c'est maître tacticien et qu'à un moment il prendra les bonnes décisions. Mais ça avait déjà été le cas à l'OM à l'époque, avec les cas Benarfa et Valbuena, où par la force des choses, il avait été obligé de les aligner et ça nous a mené le titre. Ça avait été le cas déjà au dernier Euro où il avait été obligé de changer de fusil d'épaule à un moment aussi. On sait très bien comment ça se terminera de toutes les manières. À partir des 8e, ça sera 4-2-3-1 avec des gros travailleurs sur le terrain. Et dans ce cadre-là, c'est ce que je voulais dire justement, c'est que dans le cadre du 11 qu'il aligne là aujourd'hui, il y a des joueurs qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Pour moi, cette équipe, pour moi, elle ne ressemble pas à Deschamps. Je pense, c'est là où je pense qu'il est un peu entre parenthèses pour moi, parce qu'il veut absolument aligner toute cette puissance offensive avec ces jeunes qui vont vite, qui sont capables de dribbler, qui sont capables d'éliminer. Mais je pense que ça ne travaille pas assez. Et du coup, il essaie tout le système de jeu justement pour les aligner tous ensemble. Mais je trouve que ça ne lui ressemble pas. Et à un moment, je suis convaincu, et il sera obligé de sortir un ou deux joueurs de l'équipe, notamment Dembélé et peut-être Pogba, pour revenir à un système beaucoup plus classique avec plus de travailleurs sur le terrain. Je le vois comme ça.
Merci beaucoup Frédéric, ça y est, tu peux raccrocher, mais tu peux continuer évidemment d'écouter l'after. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Est-ce qu'il y a des changements à prévoir pour le match face à l'Australie? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont des raisons d'être inquiets?
Oh non.
Non, mais enfin, je veux dire, on parle surtout de ce qui a pas bien fonctionné. Effectivement, le rayon de soleil, par exemple, hier, je trouve qu'il est venu un peu de l'entrée des deux latéraux remplaçants, qui ont véritablement apporté quelque chose, qui ont apporté de l'impact, qui ont apporté un peu de précision, puis de la détermination aussi, qui avait peut-être fait un peu défaut, que ça soit à Djibril Sidibé ou à Benjamin Mendy, quoi. Donc ça, c'était aussi intéressant, parce que faire des changements quand la situation est bloquée, c'est pas que changer un attaquant, et peut-être que effectivement la participation des latéraux, c'est important dans le jeu moderne.
Et le souci, encore une fois, c'est que c'est le dernier match de préparation. Et je suis entièrement d'accord avec Bruno. Pour moi, les deux latéraux, si je me base sur ce que j'ai vu moi-même pendant cette préparation, j'ai très envie, moi, de démarrer avec d'autres joueurs que Sidibé, Mendy, donc avec Pavard et Hernandez.
Okay,
tout simplement parce que je sens déjà Benjamin Mendy pas prêt, voilà, physiquement. Ça c'est pour moi, c'est, enfin, je l'ai souvent dit, et Daniel peut en être témoin depuis de très grandes semaines. J'ai très peur que cette Coupe du Monde corresponde à un creux physique qu'il va forcément avoir à un moment donné après sa reprise. Et Sidibé, pareil, qui a eu une année tronquée par des blessures, enfin par une blessure, et qui est pas prêt pour moi physiquement non plus. Enfin, en tout cas, qui est pas encore revenu. Est-ce qu'on démarre la Coupe du Monde avec deux joueurs qui sont pas encore prêts, ou est-ce qu'on met ceux qui paraissent très en forme et qui à chaque fois qui rentrent ou qui jouent titulaire font le boulot?
Et j'ai la réponse de Daniel hier, mais que va faire Deschamps pour toi samedi?
Je pense qu'il va repartir avec Mendy et Sidibé.
Il va mettre son équipe.
Donc sûr. Il va mettre Pavard et Hernandez sur les côtés.
Non, il va mettre Sidibé.
Ah oui,
l'équipe qui a débouté.
Ouais,
débouté hier soir.
Donc on est encore un peu dans la même philosophie, quoi.
Entre Tolisso et Pogba ou Matuidi, quoi. Donc il y en a deux sur trois qui joueront et puis il y en a qui
ouais. Ils sont quatre au milieu, t'en as un qui va sauter.
Bon, Kanté, c'est sûr qu'il joue.
Voilà. Pogba, avant qu'il soit écarté, faut vraiment qu'il se déchire encore.
Je pense que Tolisso, il va jouer.
Et Tolisso, petit à petit, il y a des chances quand même qui s'imposent.
Alors moi, il y a une chose où j'irai contre vous, c'est je pense qu'il y a un des deux latéraux qui va sauter.
Peut-être. Hein.
Ouais. Moi, je le vois bien mettre un ou Pavard ou Hernandez.
En tout cas, ce matin, Didier Deschamps, qui était l'invité de nos confrères, nos amis de TF1 Téléfoot, a déclaré qu'il avait déjà son équipe en tête. À l'Australie. Si vous êtes rassuré, moi aussi. D'ailleurs, j'ai calculé là, parce qu'on parlait du trajet Lyon-Moscou en quart pour nos amis supporters de l'équipe de France, le trajet par la route 2957 km, 34 heures de route.
Wow. Ouais, moi j'avais entendu 40 heures.
Ouais, mais en plus, ça fait 40 heures.
En quart, ça fait 40.
110, 130.
Pour le train.
Ah ouais.
Ça donne envie d'y aller.
Bah, faut être passionné.
Non. Ouais. J'espère qu'ils vont faire ça aussi pour le Qatar. Là, ils vont vraiment se régaler. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour vous parler.
Mais franchement, si t'additionnes les nombres de fois où tu t'as à être là, bouffe, hein, mais tu trouves un billet d'avion pour pas cher aujourd'hui.
Ouais, mais après, pour se déplacer de match en match.
Ouais, je sais pas.
Bon, là, ils vont aller à Kazan, attends, avec
parce que le car, il le garde pour faire
mon avis.
C'est organisé, ça.
En plus, c'est aussi la Russie, ce qui est bien pour ça.
Tu t'es fou, à un moment, ils ont envoyé
un voyage de Kazan, c'est encore à 1500 km de Moscou. Oui, voilà. C'est encore une belle petite escapade.
Et puis, t'es bling-bling aussi, Daniel. C'est pour l'ambiance.
Mais bien sûr, t'es ensemble. Dans un bus, tu peux
le faire.
Tu peux le faire dans l'avion, t'es attaché. T'as qu'une heure et demie, tu peux pas te connaître. Au bout de 40 heures, t'imagines comme ils vont se connaître tous.
En plus, on peut se le dire, dans l'avion, tu sens pas le vol. Alors que là, t'es tranquille.
Aussi, hein.